On se rend compte que tous les vêtements qu'on porte dans le sport, quand on regarde l'étiquette, c'est soit des grands équipementiers internationaux ou des marques de sport, de distributeurs. Mais 95%, c'est du made in Asie, quoi. Et du coup, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de local à faire?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Jeune Pousse de Futura dédié aux initiatives positives et à impact. Aujourd'hui, le fil rouge de notre émission sera le textile, qui essaie de renaître en France face à la terrible concurrence de la fast fashion. Comment concilier qualité, responsabilité environnementale et création de valeur sur le territoire français, alors que les règles du jeu ne sont pas les mêmes à l'international? Une proposition de loi a d'ailleurs été récemment adoptée par l'Assemblée nationale pour lutter contre la fast fashion, avec notamment la mise en place d'un malus pour compenser l'impact environnemental de ces vêtements, ou encore l'interdiction de publicité aux plateformes de vente en ligne de vêtements à bas coût. Est-ce que ce sera suffisant? Les acteurs français du secteur textile veulent y croire, à l'image de Coureur du Dimanche, dont j'accueille aujourd'hui l'un des cofondateurs, Maxime Marchal. À vos marques, prêts, partez. Bonjour Maxime.
Bonjour Thibault.
Alors bienvenue dans ce podcast. Coureur du Dimanche, un nom original pour des produits qui le sont tout autant, non?
Ouais, tout à fait. Coureur du Dimanche, donc on est une marque de vêtements et d'accessoires de sport à la fois colorés, fabriqués en France et éco-conçus à partir de matières recyclées. Et tout simplement, pourquoi ce nom? Parce que les courses officielles ont lieu le dimanche. Et puis c'était une manière de d'ancrer rapidement dans l'esprit des sportifs. C'est vrai que généralement on s'en rappelle bien et ça fait sourire.
Tu proposes tout type de vêtements? Est-ce que ça va jusqu'aux chaussures? C'est tout le matériel? Et quel type de sport?
Alors, c'est plus spécialisé running de par son nom. Et aujourd'hui, ouais, alors la boîte a été fondée en 2015. Aujourd'hui, on propose la panoplie complète où on est capable d'habiller les sportifs de la tête aux pieds. Ça va de la chaussette à la casquette en passant par les brassières, les débardeurs, les t-shirts, les manches longues, les coupes-vents déperlants même, cuissards, shorts évidemment, leggings. On essaie de proposer tout en restant toujours, bien sûr, sur deux créneaux entièrement fabriqués en France à partir de matières recyclées.
Alors justement, on va en parler. Matériaux recyclés, pourquoi ce choix et comment on fait surtout?
Pourquoi ce choix? Parce que nous, ça nous a paru comme une évidence depuis le jour 1, Coureur du Dimanche, on fabrique tout en France de A à Z. Et quand je dis tout de A à Z, c'est on tricote, on teinte, on sublime, on coupe, on confectionne, on brode, on sérigraphie. Enfin, on achète toutes les fournitures et on fait tout en France de A à Z. Pour nous, c'était la proximité géographique et humaine déjà qui est importée. C'était d'avoir le maximum d'impact, notamment sur l'emploi, sur l'économie locale. Et les matières recyclées, en fait, c'est venu juste après. Alors, il faut savoir qu'en 2015, c'était pas du tout la mode. Le recyclé, on en parlait très peu. Aujourd'hui, c'est plus en vogue, mais c'est vrai qu'en 2015, c'était pas le cas du tout. Et aujourd'hui, quand on pense un produit, ce qui impacte l'impact carbone d'un produit, c'est lié à la fois à l'énergie utilisée pour la fabrication. Du coup, en France, comme on a un très bon mix énergétique, on a des énergies bas carbone. Donc ça permet de réduire l'impact de nos produits. Et le deuxième poste le plus important, c'est la matière utilisée pour le produit. En utilisant, nous, des matières recyclées, ça permet en fait de réduire de 92% l'utilisation en eau, 60% en énergie et 32% en CO2. Donc on utilise des bouteilles de plastique post-consommation qu'on vient recycler, en tirer une nouvelle fibre recyclée et permettre toutes ces économies en fait d'un déchet plastique qu'on valorise en un produit de sport.
Alors souvent, les gens ont un peu peur quand on parle produit recyclé. Est-ce que ça n'altère pas la qualité du matériel au final?
Non, justement, ouais, c'est vrai que nous, on a beaucoup de gens, quand on les croise, que ce soit là, en boutique maintenant, parce qu'on a une boutique, mais aussi sur les salons, les gens, ils voient le mot recyclé, ils viennent toucher, ils disent « Ah, mais en fait, on s'en parle ». C'est vrai que dans l'imagination des consommateurs, le recyclé est encore lié à d'altération, peut-être qualité moindre, etc. Tout comme l'aspect prix, parce qu'il faut savoir que ce travail recyclé, c'est en moyenne 30% plus cher. Les gens pensent qu'au contraire, c'est justement, c'est des matières existantes, des déchets valorisés. Donc, potentiellement, ça vaut moins cher. Non, parce que derrière, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre derrière pour revaloriser cette matière. Et donc, du coup, ça n'altère pas, pour revenir à la question, les propriétés. Ça reste tout aussi efficace et performant, ouais.
On parle aussi beaucoup d'inciter vos clients à leur implication dans les produits. Comment ça se manifeste? Pourquoi motiver justement les clients à s'investir dans vos produits et pas juste être consommateur?
C'est vrai que nous, très tôt, on a misé sur les réseaux sociaux dans le but de fonder une communauté, être très proche de nos clients. Et on a mis en place un système de co-création sur le site en les sollicitant au maximum via des questionnaires. L'idée, c'était en gros, on s'est lancé donc nous en 2015 sur le t-shirt, mais l'idée, c'était vraiment de décliner et de proposer une panoplie complète. Donc, on l'a tout de suite mis en place en leur demandant quel type de produit ils voulaient voir dans la gamme. À la demande générale, il est sorti différentes typologies de produits et une fois qu'on a eu, on a sélectionné les produits, pareil, on recréé un questionnaire en leur demandant, on va lancer ce type de shorts de sport, comment vous voulez, quelle coupe, quelle spécificité, vous voulez une poche JP ou non, etc. L'idée, c'était vraiment nous de collecter le maximum de data pour proposer le produit en fait qui va satisfaire le maximum de personnes et mieux répondre à leurs besoins. C'était vraiment gagnant-gagnant dans le sens où eux, ils étaient mieux satisfaits avec un produit répondant réellement, qu'ils attendent et répondant réellement à leurs besoins. Et nous, de l'autre côté, c'était un moyen en fait de limiter le risque de casse industrielle, on va dire. Comme ça, on était sûr de proposer un produit qui fit avec le marché et qui soit attendu et donc qui sorte.
Alors, comment on se lance dans cette aventure un peu folle? Parce que dans le monde du sport, alors je ne vais pas citer de marques concurrentes, mais on a tous en tête des grandes, grandes marques, notamment américaines, par rapport à ça. À quel moment donné tu t'es dit, tiens, je vais concurrencer ces grands acteurs majeurs avec quelque chose de recyclé, fabriqué en France? Quel est le déclencheur et comment ça s'est mis en place?
Alors, nous, l'aventure, c'est vrai qu'on l'a fondée, nous, en 2015 avec Mathieu et Florent, donc qui sont mes compagnons d'aventure depuis le jour 1, on va dire, et toujours actuellement. D'ailleurs, l'idée, en fait, on partageait une passion commune qui était la course à pied. On était à Lyon, on s'est rendu compte très vite, pour contextualiser, en 2015, c'est un peu les prémices du Made in France, on faisait Montebourg avec sa marinière, etc. Et nous, en fait, on se rend compte qu'on partage la passion du running, et on se rend compte que tous les vêtements qu'on porte dans le sport, c'est, quand on regarde l'étiquette, c'est soit des grands équipementiers internationaux ou des marques de sport de distributeurs. Mais 95%, c'est du made in Asie, quoi. Et du coup, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de local à faire? Et puis, c'est surtout beaucoup des couleurs unies ou du fluo, quoi. Et du coup, on se dit, mais il n'y a pas quelque chose à faire, peut-être un peu plus impactant, déjà en termes de design, visuellement, avec une vraie identité, et puis surtout en termes de sens. On est une entreprise lyonnaise. À 1h30, il y a un gros bassin textile et je pense que tout de suite, on a fait la connexion. On s'est dit, mais si on arrive à créer des vêtements de sport fabriqués localement, qu'on peut aller voir à 1h30 de route de Lyon, des bureaux, en racontant l'histoire, on s'est dit, c'est quelque chose de beau à raconter, ça serait sympa et ça permettrait d'apporter notre patte, quelque chose de moins impactant, mais plus impactant en tout cas pour l'emploi et l'économie locale. Et c'est parti de là et ça fait 9 ans que ça dure et voilà, il continue l'aventure.
Comment on fait pour avoir des produits qui sont à la fois de qualité et produits en France face à toute cette concurrence, et notamment asiatique, qui n'ont pas forcément les mêmes coûts?
Là, c'est un peu le cœur du sujet. Nous, maintenant, ça fait 9 ans qu'on est dans le métier. On se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on le déplore, il n'y a aucun avantage en fait, à faire les choses bien, c'est-à-dire à faire les fabriquer localement, faire les choses de manière éthique, tant qu'il y aura en fait des marques qui ont la possibilité de s'affranchir en fait de toutes les autres règles, tant qu'on sera capable d'importer sur le marché un t-shirt à 3, à 5 euros, à 9 euros, et qui se déresponsabilise totalement en fait des nuisances sociales, environnementales, par exemple en exploitant, en polluant, en rejetant leurs eaux usées, en utilisant des énergies ultra carbonées comme des usines au charbon comme elles tournent en Chine. Le jeu sera déséquilibré, on va dire. Ces marques-là auront toujours un avantage concurrentiel qui sera celui du prix. Donc, je pense qu'en fait, pour lutter, ça passe par deux choses. Le premier, je pense, ça passe au niveau étatique, par une vraie législation. Et dans ce sens-là, tu disais en introduction, il y avait cette loi contre la fast fashion actuellement qui est un premier pas. Et en deux, je pense, c'est améliorer la compétitivité du Made in France. Et pour cela, je pense qu'on a besoin en fait de tout le monde. C'est-à-dire que plus il y aura de marques qui fabriqueront en France, qui relocaliseront, plus on modernisera notre appareil productif, plus on se structurera, plus on arrivera à faire des économies d'échelle. Alors, on ne sera jamais aussi compétitif qu'une marque qui est actuellement fabriquée en Asie, mais si, mis tout bout à bout avec, par exemple, il y a un système de malus, un système de bonus, pourquoi pas pour les marques qui font bien, on parle d'éco-score, d'affichage environnemental et social, pourquoi pas des réductions d'impôts pour les marques qui font bien. Nous, on se bat aussi pour les marques Made in France sur une TVA à 5,5 comme dans l'alimentation. En fait, tout ça, ça permettrait d'être beaucoup plus compétitif et de pouvoir rivaliser aujourd'hui avec ces autres marques qui aujourd'hui raflent. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché du Made in France, c'est 3% des achats en France, des vêtements en France. Donc, ce qui est une part infime du gâteau, pour le corriger, il faut faire cet effort de tous et ça passe, je pense, par niveau des nouvelles législations.
Comment on fait pour que les consommateurs passent le pas et aillent vers du Made in France ?
La période post-Covid avait laissé présager de bons signaux dans le sens où les gens avaient justement cherché à soutenir les commerçants locaux, les marques françaises, Made in France, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte après avoir plusieurs événements contextuels, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'inflation. Aujourd'hui, on se rend compte que, mine de rien, le monde d'après, on a tous un petit peu repris nos bonnes habitudes à aller, et d'autant plus avec cette tension sur le pouvoir d'achat actuel, on a repris un peu nos habitudes. Donc, en fait, ce qu'on avait gagné au post-Covid, on l'a un petit peu perdu aujourd'hui en 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs sont en moyenne, acceptent de payer 10% plus cher pour du Made in France. Alors, aujourd'hui, en 2024, c'est peut-être même un peu moins avec l'inflation depuis. Mais en tout cas, nous, on y croit, à consommer moins mais mieux. On a su, en 9 ans en tout cas, voir croître ce type de réflexion. Les gens sont beaucoup plus conscientisés, on va dire. Ils essaient d'avoir vraiment de l'impact dans leurs achats. Maintenant, c'est à nous aussi de travailler en tant que marque pour rendre le Made in France encore plus accessible. Et voilà, ça passe encore par, des régulations pour pouvoir être compétitif. Ouais.
Merci Maxime pour toutes ces explications. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt Maxime.
À bientôt Thibaut, merci.
À bientôt.